Le journal tout de suite d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. 4 jours, 4 nuits, des éclats de voix et finalement un compromis. L'extension du pass sanitaire a été votée cette nuit à l'Assemblée dans une ambiance encore tendue. Pas de licenciement pour les salariés soumis au pass sanitaire. Les centres commerciaux exemptés, sauf exception. On fera le tour des changements. Ça va mieux sur les rails après le dramatique accident d'hier. La mort d'un ingénieur sur le chantier d'un pont près de Paris. Le trafic vers l'ouest a bien repris malgré des retards encore ce matin. Des incendies dans le sud, des inondations meurtrières en Allemagne ou en Belgique, le début d'été et ses catastrophes naturelles. Le GIEC, le groupe d'experts sur le climat, se réunit à partir d'aujourd'hui et on va en parler tout à l'heure avec vos invités, Karine.
Oui, deux invités ce matin dans le grand entretien. D'abord, le professeur de climatologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique, Jean-Pascal Van Ypersel. Sans oublier le documentariste et militant écologique Cyril Dion, les phénomènes climatiques sont cet été effectivement d'une effroyable intensité. Sont-ils en plus en train de s'accélérer? Avons-nous les moyens encore de les freiner? Vos questions, vos témoignages, vos réactions, comme chaque matin, au 01 45 24 7000. Rendez-vous tout à l'heure à 8h20.
Dans ce journal encore, la Tunisie, fragile, démocratie en pleine crise. Ce matin, le président suspend les travaux du Parlement, poussé par la rue. Le parti islamiste Ennahda crie au coup d'État. Et puis, les Jeux Olympiques à Tokyo, la Française Manon Brunet se qualifie pour les quarts de finale du Sabre d'âme. Petite matinée sinon pour les Bleus. On suit le VTT qui commence à l'instant.
France Inter.
Ce fut donc un vote à l'arraché après une semaine de débats houleuses. L'extension du pass sanitaire a été adoptée cette nuit sur un compromis pour apaiser les tensions qui émergent dans la rue et dans l'hémicycle. Les échanges acides de la soirée l'ont encore montré. Envolée de Jean-Luc Mélenchon pour la France insoumise qui a tenté une ultime motion de rejet contre un pass qu'il juge autoritaire.
Le pass sanitaire sera contrôlé 100 fois par jour. À tout propos, vous allez scanner et rescanner toute la population. Un travailleur vient travailler sans passe, son salaire est suspendu. Un soignant non vacciné, suspendu. Il doit apprendre à vivre sans salaire. Consternant régime où la menace sociale remplace tout dialogue.
Réponse tout aussi enflammée du ministre de la Santé, Olivier Véran.
Pas un mot pour la pandémie, pas un mot pour les malades, pas un mot pour les milliers de contaminations au quotidien, pas un mot pour les soignants dans les hôpitaux, pas un mot pour les jeunes qui souffrent de Covid long. En écoutant Monsieur Mélenchon, je vous disais que si vous mettiez la moitié de ce que vous mettez contre les mesures pour nous aider à lutter contre l'épidémie elle-même, vous seriez un sacré partenaire.
Olivier Véran qui se félicite avec ce vote d'une unité nationale retrouvée, 156 voix pour l'extension du pass sanitaire. La droite qui a voté en ordre dispersé, Philippe Gosselin DLR notamment voit dans ce texte une usine à gaz. 60 voix contre, venues de la gauche du Rassemblement National et 14 abstentions. Pour que ça passe, le gouvernement a donc dû faire des concessions. Il n'y aura pas de licenciement pour les salariés soumis à la vaccination ou au pass sanitaire. Delphine Simon, bonjour. Les syndicats étaient vent debout et les juristes sceptiques.
Oui, et les sénateurs ont finalement eu gain de cause. Les employés des bars et restaurants, les hôtesses d'accueil, mais aussi les personnels soignants non vaccinés ne pourront pas être licenciés. Le compromis trouvé permet de suspendre leur contrat de travail et leur salaire jusqu'à ce qu'ils présentent les justificatifs nécessaires. Les récalcitrants peuvent utiliser dans un premier temps des jours de congé avec l'accord de leur employeur. Quant aux CDD qui refusent le pass sanitaire, leur contrat pourra être stoppé plus tôt que prévu. La gauche au Sénat craint une rupture brutale des contrats de travail dans la plupart des cas. Certains employeurs risquent de pousser les récalcitrants vers la sortie. Elle a donc saisi le Conseil constitutionnel.
C'est bien la concession majeure, hein, le fait de pas, qu'il n'y ait pas de licenciement pour les salariés soumis à la vaccination. Delphine, est-ce qu'il y a d'autres concessions ?
Oui, le gouvernement lâche aussi du lest sur les centres commerciaux. Ce sera du cas par cas. Si la situation sanitaire l'impose, et plutôt que de fermer les centres commerciaux, les préfets pourront imposer le pass sanitaire par décret. Sanctions ont été allégées aussi pour les établissements recevant du public et qui ne font pas respecter le pass. Il y aura d'abord des sanctions administratives avant les sanctions judiciaires. En revanche, les sénateurs n'ont pas eu de gain de cause sur les terrasses. Il faudra bien présenter un pass sanitaire si l'on veut prendre un café crème à l'extérieur.
Delphine Simon du service économie de France Inter. Le pass sanitaire pour les mineurs que les sénateurs voulaient aussi supprimer reste maintenu, mais ne sera obligatoire qu'au 30 septembre.
Et on devrait franchir le cap des 40 millions de premières doses aujourd'hui.
Plus vite que prévu, l'extension du pass sanitaire y a largement contribué. L'objectif du gouvernement maintenant, c'est 10 millions de plus fin août. Mais comment convaincre les personnes les plus éloignées du parcours vaccinal et les plus réticentes? À Marseille, l'association 7 Santé et Environnement pour tous mène un travail de fourmi dans les quartiers populaires avec un médecin référent et des médiateurs de l'Agence régionale de santé. C'est le reportage à la Cité Arbel de Mathilde Vinceneux.
Il fonctionne toujours en duo. Adigi Slim, médecin généraliste, et Jamila, la médiatrice du jour. C'est elle qui a organisé le rendez-vous au quatrième étage d'un immeuble.
Bonjour, docteur Adigi.
Bonjour.
Dans le salon, le médecin répond à une jeune maman et sa voisine.
Pourquoi il y a des rumeurs, fais gaffe des vaccins.
Quand tu entends des infirmières qui parlent, ils ne veulent pas se vacciner.
Si le vaccin il était dangereux, on le saurait. Et on ne le ferait pas aux 3 milliards de personnes qui sont déjà vaccinées dans le monde.
Finalement, au bout de 3 quarts d'heure, les deux patientes acceptent de se faire vacciner.
Je procède à la vaccination.
La clé, c'est de prendre le temps, explique Jamila.
Si vous allez au vélodrome, il n'y a pas toutes ces explications-là. C'est vous avez rendez-vous, on vous vaccine, hop, 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 carte vitale, on vous enregistre et c'est fini. Et ce n'est pas ça. Il faut rassurer la personne.
Le médecin et la médiatrice ont maintenant rendez-vous avec 3 personnes au pied d'une tour, dont un monsieur sans numéro de sécurité sociale et une femme de ménage qui travaille dans un centre commercial.
Là, je suis soulagée.
Vaut mieux le vaccin que le test PCR.
Ah oui.
Au total, en 2 jours, 45 injections ont été faites à domicile, ici, dans la cité d'Herbel. Marseille, Mathilde Vinceneux, France Inter.
Les préfets s'inquiètent de plusieurs rave parties ce week-end. 2000 personnes en Savoie. Les fêtards sont invités à faire un test PCR. Et dans le Maine-et-Loire, 1 millier de personnes. Des médiateurs de la protection civile ont été dépêchés sur place par la préfecture qui avait installé un stand de dépistage. La nuit a été longue pour des milliers de voyageurs. Après ce grave accident de chantier qui a perturbé le trafic entre Paris et l'ouest de la France hier soir, un ingénieur de la SNCF enseveli après un éboulement sur le chantier d'un pont à Massy-Palaiseau. Une enquête judiciaire a été ouverte et il y a eu donc de gros blocages pour les voyageurs. Le trafic a même été suspendu plusieurs heures. Certains voyageurs, comme Violaine, regrettaient le manque d'indication de la SNCF.
Il y a un petit manque d'infos, il y a un manque de responsabilité là-haut pour juste donner des indications, parce que la question que je pose, je pense qu'ils l'ont déjà eu précédemment sur d'autres retards ou incidents du type. Et voilà, juste qu'on me dise oui, non, il y a quelque chose de pris en charge. J'ai mon mari qui est en train d'appeler des hôtels autour pour voir comment ça va nous coûter, parce que j'ai appelé plein d'amis autour, mais qui sont pas là ou repartis ou autre. Et donc oui, bah on va payer, mais... Voilà. Et puis j'ai ma voiture en gare de Nantes qui est dans un parking. Et puis j'ai la totale quoi.
Voilà le témoignage de Violaine au micro de Sandrine Eto à Ondeg. Tout va mieux ce matin. Le trafic a repris quasiment normalement avec des retards encore tout de même, mais d'une quinzaine de minutes maximum.
La foule dans les rues de Tunis hier soir malgré le couvre-feu.
Des cris de joie, des klaxons après la décision du président de suspendre les travaux du Parlement pour 30 jours et de limoger son Premier ministre. C'est ce que réclamaient des milliers de manifestants dans la journée, exaspérés par la gestion chaotique de la crise sanitaire, par les luttes de pouvoir aussi avec la première organisation politique du Parlement, le parti islamiste Ennahda. Frédéric Saïd, c'est un moment délicat et c'est un euphémisme pour la jeune démocratie tunisienne.
Oui, 10 ans après la révolution tunisienne qui avait marqué le début des printemps arabes, le chef de l'État tunisien s'est donc octroyé le pouvoir hier soir au détriment du gouvernement et du Parlement. Kais Saied gouvernera seul, épaulé par un nouveau Premier ministre choisi par lui. Le président tunisien prend prétexte du très fort mécontentement de la population. Depuis des mois, les blocages politiques entraînent le chaos sanitaire et la paralysie économique dans ce pays qui compte la mortalité liée au Covid la plus élevée d'Afrique. Hier, jour de fête de la République en Tunisie, des manifestations ont éclaté dans tout le pays malgré l'important dispositif policier. Les locaux du parti Ennahda ont été attaqués dans les villes les plus touchées par la pandémie comme Kairouan au centre du pays ou Tozeur dans le sud. Ennahda, parti islamiste qui est au pouvoir depuis 10 ans au sein de différentes coalitions. Son chef de file, Rached Ranouchi, le président de la Chambre des députés, dénonce un coup d'État. Il a tenté ce matin d'entrer dans le Parlement. Il en a été empêché par l'armée qui est sous le contrôle du nouvel homme fort, le chef de l'État tunisien.
Frédéric Saïs, merci pour ces précisions. Des mouvements de contestation à travers le monde, ils ont souvent leur hymne, Protest Songs. C'est notre série de l'été, tous les lundis. Et ce matin, on part en Ouganda où le principal opposant au pouvoir est un chanteur de reggae, Bobby Wine, arrivé en deuxième position à la présidentielle qui s'est tenue en début d'année. Le musicien entend bien poursuivre le combat, Cyril Sauvageau.
Où s'arrête la musique et où commence la politique? Pour Bobby Wine, la frontière est de plus en plus floue. À 38 ans, ce chanteur reggae très populaire en Ouganda est devenu l'opposant numéro un dans son pays. Son charisme, sa capacité à soulever les foules ont donné du fil à retordre à son adversaire, le président sortant Museveni, qui a tout tenté pour le faire taire pendant la campagne de 2020.
Le gouvernement militaire a envoyé ses soldats. Ils m'ont frappé. Tout ça pourquoi ? Parce que je dis la vérité.
Comme ici, pendant l'un de ses concerts, Bobby Wine a compris comment utiliser sa renommée pour faire passer son message. Et son sens de la mise en scène, béret rouge de révolutionnaire sur la tête, est un atout pour parler à la jeunesse dans un pays où les trois quarts de la population a moins de 35 ans. Il faut dire aussi qu'en Afrique, reggae et politique ont toujours été liés. Selon l'exemple de Bob Marley qui appelait les Africains à s'unir, des grands noms du reggae comme Alpha Blondie ou Tikenja Fakoly sont devenus des acteurs politiques à part entière. Bobby Wine va plus loin, avec la montée en puissance de son parti et grâce à ses réseaux à l'international, celui que l'on surnomme le président du ghetto peut caresser l'espoir de devenir un jour président tout court.
Protest Song, c'est notre série de l'été signée Cyril Sauvageau, à retrouver sur franceinter.fr. Cette question à présent, le loup peut-il cohabiter avec un troupeau? Comment le prédateur se comporte-t-il vraiment? Un chercheur suisse travaille sur la question depuis 3 ans et ses découvertes viennent bouleverser certaines croyances. Il utilise une technique bien particulière, des caméras thermiques refroidies destinées aux soldats, donc militaires, pour étudier le comportement nocturne du loup, Sophie Becherel.
Elle coûte le prix d'une très belle voiture, mais ces jumelles thermiques sont des bijoux de technologie. Conçues pour le champ de bataille, elles ont les mêmes performances en usage civil. Jean-Marc Geyer est l'expert caméra chez Thales Group.
Ces caméras permettent d'abord de voir dans le noir total. Le concept, c'est de mesurer des écarts de température entre différents objets. Sur le loup, vous allez voir les différences de température qu'il peut y avoir entre un œil, un museau, une patte, mais aussi au niveau de l'optique, vous avez un zoom très puissant. Même si vous êtes loin, vous allez avoir la sensation de vous rapprocher de l'objet et d'avoir beaucoup de détails.
L'éthologue Jean-Marc Landry s'est équipé en 2013. Pour lui, cet outil a révolutionné l'étude du loup la nuit. Il a accumulé 4000 heures d'observation.
Si vous utilisez sur le marché des caméras non refroidies, vous arrivez à une limite de 300 mètres. Vous ne savez pas si c'est du loup, du renard, du chevreuil. Et nous, on commence à travailler à partir de 300 mètres. On travaille sur les troupeaux pour ne pas déranger l'observation.
Après 4 années sur le terrain, il a publié ses résultats scientifiques uniques au monde. Première découverte, le loup partage l'espace avec les troupeaux de moutons ou de vaches. Le comportement du prédateur l'a lui-même surpris.
En fait, les loups côtoient souvent les troupeaux sans s'y intéresser. Parfois, ils traversent même les troupeaux bovins et puis voilà, et ça se passe très bien.
Ces images permettent aussi de dépassionner la discussion avec éleveurs et bergers.
Un reportage signé Sophie Becherel. Les pompiers sont restés mobilisés toute la nuit dans l'Aude pour surveiller les éventuelles reprises de flammes. Plus de 850 hectares de végétation ont été détruits entre Narbonne et Carcassonne ces dernières heures. L'Italie, quant à elle, ne parvient pas à maîtriser les feux en Sardaigne. Le pays demande l'aide de ses voisins. 2 Canadairs ont déjà quitté la France pour lui porter secours.
Troisième journée de compétition aux Jeux Olympiques de Tokyo. Quelques déceptions françaises ce matin.
Dans les bassins, Marie Wattel termine 6e de la finale du 100 mètres papillon. Pareil pour les garçons en relais 4x100 nage libre. L'espoir Vincent Louis en triathlon finit 13e. Là où ça passe, c'est en handball pour les Français. 34-29 face au Brésil. Deuxième succès en autant de matchs. Et puis les Français ont une carte à jouer en VTT. On commence à l'entendre. C'est Fanny Lechevestrier qui suit la compétition qui commence à l'instant. Les Français ont une carte à jouer, Fanny, mais l'attraction de la course sera une fois de plus un Néerlandais et qui s'appelle Mathieu Van Der Poel.
Oui, c'était l'attraction de la course Mathieu Van Der Poel. Cela a été jusque, eh bien, 5 minutes après le départ. Mathieu Van Der Poel, le Néerlandais qui visait la passe de Troyes, qui lui était champion du monde de cyclocross, qui avait porté le maillot jaune durant 6 jours sur le Tour de France et qui rêvait donc de titres et d'or olympique ici à Izou sur le VTT. Eh bien, il a fait une terrible chute, un soleil à l'attaque d'une descente. Son vélo s'est retourné, il est lourdement tombé sur le dos. On a cru qu'il allait abandonner, mais il est solide, il est costaud, Mathieu Van Der Poel. Il a tenu à repartir, mais il est très très loin désormais de la tête, à plus d'une minute des meilleurs. Et dans ses meilleurs figure le Français Victor Koretsky, qui est très très bien placé et qui va peut-être jouer la médaille. On va suivre cela.
Beaucoup de rebondissements donc dans cette course que vous nous faites vivre, Fanny Lechevestrier. Merci beaucoup. Avec les moyens techniques de Radio France en direct de Tokyo, on suivra aussi tout à l'heure, notez-le, 9h30, le match de volley entre la France et la Tunisie. Après une première défaite face aux États-Unis, les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur.
Vous avez entendu, quand on tombe en VTT, quand on fait une chute, on fait un soleil. C'est chouette. Merci Hélène Philly. Je vous dis à demain.